Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
Quelle performance d'Anne-Renée Desbiens samedi à la Place Belle devant une foule record pour un match de hockey professionnel de hockey féminin au Canada. Record qui va être battu, j'en suis convaincu, très bientôt à Toronto et j'espère éventuellement à nouveau à Montréal. Ça serait difficile à battre si on remplissait le Centre Bell, avouons, compte tenu de la capacité des amphithéâtres au Canada. Anne-Renée est avec nous ce soir, malgré quelques jours de congé. Elle fait une petite entrave spécialement pour les amateurs de sport. Bonsoir Anne-Renée.
Bonsoir, Mario.
Félicitations. As-tu du fun?
Oui, mettons que les yeux sont brillants la plupart du temps. Là. Avant, après les matchs, c'est un rêve qui est devenu réalité. Donc, c'est dur de ne pas être de bonne humeur quand on travaille ici d'aller arrêter des rondelles.
Vraiment, c'est drôle. Puis même, on dirait entre les périodes, je ne sais pas si c'était sur un nuage ou si c'est ton attitude tout le temps, mais même avant d'entrer en prolongation, c'était premièrement le moment que tu as vécu, le moment de la grosse ovation spontanée. Tu sais, quand ça vient vraiment du fond du cœur, sans que personne le dise « faites du bruit », comment ça t'a touché?
Ah, ça m'a donné des frissons. J'en parlais un petit peu avec l'autre gardienne. Premièrement, je savais pas trop regarder parce que mon visage était en gros sur l'écran géant. Puis il n'y avait pas moyen de m'échapper de la caméra. Mais non, c'est ça, c'est vraiment le fun. Et puis je pense que quand t'es jeune, que tu t'imagines performer devant autant de gens, t'imagines justement ce qu'en dit ton nom. Donc c'est certain que c'est un beau moment que je... Puis juste merci aux partisans, c'était vraiment spécial.
Oui, vraiment spécial. Maintenant, là, je vais faire un petit peu d'ironie, mais c'est d'ironie positive. Puis je vais peut-être taquiner ma collègue et votre patronne, directrice générale, Danielle Sauvageau. Vous inspirez-vous du modèle des Canadiens des dernières années où le Canadien doit vraiment jouer un gros, gros match pour vous donner une très bonne chance de gagner?
Je sais pas si c'est un modèle du Canadien, mais on s'attendait justement avec une nouvelle ligue qu'il allait avoir... beaucoup d'actions d'un côté à l'autre, beaucoup de revirements, du jeu très ouvert, parce que les systèmes de jeu sont pas encore très développés, donc c'est vraiment qu'est-ce qui se passe présentement.
Mais as-tu l'impression que vous en donnez trop de lancers? C'est le fun, tu te démarques, ta coéquipière également avait joué un très beau match sur la route le match précédent, mais entre vous, là, dans le sérieux du vestiaire puis des entraînements, voulez-vous couper dans le nombre de lancers comptes? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter pour que ça soit plus équilibré? Parce que vous gagnez, mais vous êtes souvent dominé.
Oui, on a parlé aussi beaucoup des détails, soit avec nos bâtons, soit finir nos mises en échec. Ces petites choses-là, des fois, juste s'assurer de prendre le temps de faire un jeu, pas juste sur le bout de la palette. Donc, c'est les petits détails qu'on va adresser en tant qu'équipe et puis prendre soin. C'est certain que c'est pas soutenable d'accorder plus que 40 lancers à chaque match. Mais moi puis Hélène, Chewy, la gardienne de but avec moi, on aime ça, mais par contre, d'un point de vue d'équipe, c'est pas qu'est-ce qu'on veut faire à long terme.
Ouais, ben c'est parce qu'à long terme, justement, j'imagine que vous commencez déjà à vous formater puis à penser en fonction des matchs qui seront sans lendemain, des matchs éliminatoires. Ben oui, ça va être des 3-5, mais tu comprends ce que je veux dire. Ou là, ben, je pense qu'il va falloir être encore mieux structuré que vous l'êtes, malgré le fait que vous occupez le sommet du classement avec le Minnesota, là.
Ouais, le positif de ce côté-là, comme tu as mentionné, c'est qu'il y a des points qu'on peut améliorer, malgré justement le fait qu'on accorde beaucoup de lancers. On est quand même première, donc on fait encore, beaucoup de choses qu'on fait très bien. Donc, il y a place à amélioration, mais on peut être satisfait du travail qu'on a fait jusqu'à l'instant. Okay. Mais effectivement, à 43 lancés, si tu as gardé un mauvais match, tu n'auras pas beaucoup de chance de gagner.
Non, exactement. Anne-Renée Desbiens qui est avec nous. Anne-Renée, je sais que ta saison est jeune et l'expérience de l'PHF est très, très jeune. Mais si tu compares ce que tu vis depuis le début de cette saison-là, tes plus beaux moments en carrière, là, tu penses-tu que c'est en train de s'inscrire dans la même catégorie de tes plus beaux moments?
Oui, c'est en train de s'inscrire là. La beauté de ça, c'est qu'à chaque match, justement, tu as le soutien. On dirait qu'avant, c'était beaucoup dans les événements internationaux, en finale des Olympiques, des choses comme ça, qu'on avait ce support-là, cette couverture médiatique-là. Tandis que là, ça devient sur une base vraiment hebdomadaire. Donc, de voir justement les gens apprécier le spectacle qu'on met sur la patinoire, de venir nous supporter, de dire que c'est ça, c'est mon travail à tous les jours et puis c'est tout ce que j'ai besoin de faire. C'est effectivement un rêve aussi.
As-tu l'impression que ça change ta vie en ce moment depuis une couple de mois et surtout depuis le début de la saison par rapport au niveau de reconnaissance que tu obtiens dans la rue parce qu'il y a beaucoup plus de diffusion? Je ne sais pas si tu le sens déjà, là.
Oui, je le sens déjà. Il y a beaucoup plus de gens qui sont au courant justement du hockey féminin, des matchs, ils regardent à la télévision, pas seulement à Montréal, mais partout au Québec, partout en Amérique du Nord. Donc, c'est quelque chose justement que le hockey féminin, j'ai confiance qu'il va grandir très vite, avoir plus d'inscriptions au hockey mineur aussi. Donc, on sent déjà l'impact du succès de la Ligue.
De ton point de vue, très, très bien positionné là, pour observer tout ce qui se passe sur la glace, qu'est-ce que tu penses du règlement là où on peut appliquer des mises en échec? De quelle façon tu considères que ça change le jeu par rapport à tout ce que tu as vu en hockey féminin de très haut niveau avant ça, là, par rapport au hockey olympique, par exemple?
Ça l'aide à bâtir les rivalités beaucoup plus rapidement.
oui, hein?
Dire que, ouais, les filles ils adorent le jeu. Qui disait que justement, souvent au hockey féminin international, on savait pas c'est quoi la ligne. Des fois, on pouvait le faire, des fois, on pouvait pas le faire. Ça dépendait un petit peu de l'humeur de l'arbitre. Tandis que maintenant, justement, on apprend que c'est légal, que les filles apprennent à se protéger aussi, mais aussi comment gagner possession de la rondelle. Donc, on aime ça. Ça crée des rivalités, ça crée un bon spectacle. Et puis, joueurs et spectateurs ont l'air de bien apprécier.
Es-tu surprise du niveau d'intensité puis de l'impact de certains de ces contacts-là? Pensais-tu que ça irait jusque-là? Parce que ça brasse des bouts, là.
Ah, je suis pas surprise du tout, connaissant les filles, sont très compétitrices, ils ont la mémoire longue, donc c'est certain que ça va continuer de cette façon-là, il y a aucun doute là-dessus.
Ah, il y en a des mauvaises langues, tu dis, oui, j'en connais, qui ont la mémoire longue, tu sais, mais des gars aussi ont la mémoire longue, je pense que c'est des deux bords, mais tu penses-tu que, puis je te le demande, je sais pas si c'est une question sérieuse, mais on sait jamais tellement il va y avoir, ben oui, je pense que c'est une question sérieuse, penses-tu qu'à un moment donné, on va avoir une bagarre?
Moi, j'en suis certaine. Il n'y a aucun doute là-dessus que ça va arriver. C'est juste une question de temps.
Puis, tu penses-tu que ça va être bon pour la Ligue?
Ça, je ne sais pas. C'est une bonne question. Des fois, les joueurs sont émotifs aussi. Il y a des choses qui se passent dans le feu de l'action. Je pense pas que ça va être des bagarres planifiées à la mise au jeu. Ça va être vraiment plus après un scrum en avant du but ou des petites choses comme ça ou une mise en échec douteuse. Donc, veut pas, on est tous serrés aussi, on soutient nos coéquipières. Donc, des fois, c'est quelque chose qui peut se passer dans le feu de l'action, mais je pense pas que ça va être planifié jamais. Mm-hmm. Je pense que ça va être vraiment plus spontané.
Parce que tu l'as dit, puis je pense que les concepteurs de la Ligue et les gens qui se réunissent, dont Daniel Sauvageau qui participe aux réunions, veut pas, ça crée des rivalités plus vite. Et bon, ce qu'on a vu qui fonctionnait, alors qu'on diminue le nombre de bagarres dans le hockey masculin, là, on s'en va, je sais pas si on s'en va vers l'éradication, mais le hockey physique vend, on peut pas le nier. Donc, plus ça va ressembler dans le calibre féminin, mais au hockey masculin, plus ça va être vendeur. C'est ce que j'ai l'impression qui va arriver, mais as-tu cette impression-là aussi?
Je sais pas si ça va se comparer encore. Par contre, justement, je pense que c'est un aspect, comme tu as mentionné, que les spectateurs aiment, mais c'est aussi un aspect que les joueuses aiment. Une façon de séparer de la rondelle, s'assurer que les joueuses gardent leur tête haute. Des fois, avant, les joueuses étaient peut-être un petit peu trop patientes avec la rondelle, des infractions, mettons avec des bâtons, des affaires comme ça. Donc maintenant, il y a d'autres possibilités. Donc on va continuer de l'exploiter, mais je sais pas si ça va se comparer à ce qui se retrouve au niveau masculin présentement.
Ouais, mais quand je fais la comparaison, je devrais pas la faire, mais c'est plus dans le style de jeu en ce sens, c'est quand même très physique, puis oui, on va sentir les rivalités s'installer. Tu sens-tu qu'il y a déjà une équipe adverse avec qui il y a une rivalité naturelle, qu'elle soit géographique ou de par l'identité des femmes qui jouent pour cette équipe-là, Anne-Renée?
Je dirais que Toronto, ça va probablement être la plus intense, justement, des caractéristiques des joueuses là-bas. Il y a beaucoup de joueuses que je joue avec sur l'équipe nationale, que c'est toujours un petit coup de coude de plus. Et ils gêneront pas pour finir le mise en échec un petit peu plus tard, des petites choses comme ça. Puis, pas, c'est Montréal, Toronto, donc ça l'ajoute au tout.
Ben, et tu penses-tu que vous allez remplir la Centre Bell un jour, Anne-Renée?
Oui, je suis confiante que c'est quelque chose qu'on va réussir. En plus, selon ce que je sais, je pense que Centre Bell, c'est une des plus grosses capacités dans un aréna en Amérique du Nord. Donc, il serait dur à battre, puis ça serait vraiment le fun d'avoir le record à Montréal, connaissant le passion des partisans et puis comment les gens nous supportent ici. Donc, j'aimerais bien ça que ce record-là soit à Montréal.
Tellement, il faut que ça arrive. Je ne sais pas si ça va être en série cette année parce que le calendrier de la saison régulière est déjà établi, mais je suis convaincu que ça va arriver, moi également. Anne-Renée, merci beaucoup. Bon quelques jours de congé. Et puis, je te remercie beaucoup d'avoir été là, ma chère, et bonne semaine.
Merci Mario, à la prochaine.
Bye bye. Anne-Renée Desbiens qui était avec nous, la gardienne de l'équipe de Montréal. Tout à l'heure, on va vous demander en tribune téléphonique si vous embarquez, si vous avez vu, premièrement, parce qu'avant on parlait de ce que nous allions voir. Là, on l'a vu. 22 matchs ont joué, 8 matchs par l'équipe montréalaise. Et j'ai hâte de savoir si vous y adhérez. Il y en a déjà qui ont commencé à répondre sur ma page Facebook. Je vous invite à aller la consulter puis me répondre. Je vais lire quelques messages tout à l'heure. Mon courriel également, bien sûr, ici au 98.5 au mario.langlois@985fm.ca. Donc, est-ce que vous embarquez dans le hockey féminin? Est-ce que vous pensez que on peut envisager qu'elle remplisse, qu'elle joue devant un Centre Bell rempli à capacité? Moi, je pense que oui. Puis il y en a qui m'écrivent de façon courtoise en me disant, moi, j'ai pas d'intérêt, puis je respecte votre opinion, là. Je n'ai rien à vendre. Je consulte et je tâte le terrain. Je teste votre intérêt par rapport à ce nouveau produit qui évolue très rapidement et qui soulève déjà beaucoup d'enthousiasme. C'est sûr que tout n'est pas parfait, là. Il y a encore des choses à corriger, telles que plusieurs personnes me l'ont écrit sur ma page, mais je pense qu'on constate tous que, en tout cas, que les femmes se donnent, ça, il y a aucun doute, là, à chaque match, et que les gens qui assistent au match ont un niveau d'enthousiasme qui est peut-être plus élevé que la moyenne des amphithéâtres, là, dans tout sport confondu. Les gens sont là, puis ils veulent être là, nulle part ailleurs, puis il y a comme une adhésion à un autre degré, on dirait. Alors, c'est parti, 98-985, vous avez des messages également. Au retour de la pause, Stéphane White est avec nous. On revient sur le dernier match du Canadien avant la semaine de vacances et le congé des étoiles.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Tout comme plusieurs autres équipes de la Ligue nationale, les Canadiens sont en congé pour quelques jours, congé d'équipe et congé de la pause des étoiles. Ils ont conclu leur portion de calendrier pré-pause avec une défaite en prolongation. Martin Saint-Louis disait, si on joue bien le dernier match avant la pause, bien on va avoir une belle semaine de vacances. Est-ce que le Canadien va avoir une belle semaine de vacances, Stéphane White? Salut, Steph!
Salut Mario, ça va bien?
Oui, ça va bien. Penses-tu qu'ils ont assez bien joué pour avoir la tête tranquille, l'esprit tranquille pendant leur petit congé?
Moi, je pense que oui. Écoute, j'ai aimé le match. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimé dans ce match-là. Et premièrement, Jake Allen a joué un bon match. Son troisième bon match de suite. Et dans ses trois derniers matchs, il y a seulement une victoire, mais il a bien joué quand même. Il y a une victoire contre Colorado, une défaite contre Ottawa, qui a été très bon, et Pittsburgh, mais encore été très bon. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les dépisteurs professionnels qui suivent le Canadien, mais ils voient pas que Jake Allen ne gagne pas, ils voient que Jake Allen joue bien quand même. Et ça, c'est important si on veut l'échanger. Il y a quelque chose de spécial que j'ai vu dans ce match-là, Mario, que c'est pas longtemps que j'avais pas vu chez le Canadien. À un moment donné, je regarde le match, il reste 10 minutes à faire dans le match. Et le Canadien a donné jusqu'à 10 minutes 30 lancés au but. Ça veut dire, là, qu'ils ont donné 3 lancés dans les 10 dernières minutes de jeu et la supplémentaire inclus. La période d'overtime. Et ça, là, c'est la première fois que je vois le Canadien bien jouer. Le Pittsburgh mettait beaucoup de pression sur le Canadien, mais t'as pas capable de mettre des rondelles au filet parce qu'on jouait très bien dans ce. Et ça, Martin Saint-Louis en a parlé dans son point de presse, qu'il avait bien aimé la façon qu'on avait essayé de protéger l'avance. Oui, on a perdu, mais c'est des bons points. Donc, moi, j'ai trouvé qu'ils ont joué un bon match dans les circonstances. Et les circonstances, c'est quoi? Tu viens d'en parler, Mario. On s'en va en vacances pendant 9 jours. Et ça aurait été facile pour ces joueurs-là d'avoir la tête aux vacances plus qu'à autre chose. Et là-dessus, mais je pense que c'est un bon travail des entraîneurs d'avoir réussi à garder ces joueurs-là focus sûr que la tâche à accomplir.
Tu l'as vécu, ça fait pas un siècle là, qu'on l'applique cette semaine de congé-là. Il y a eu des variations à la manière dont on l'utilisait. Mais toi, quand tu faisais partie d'un personnel entraîneur de la Ligue avec les Hawks ou le Canadien, est-ce que c'était apprécié des coachs et de l'état-major comme... Tu sais, je pense à Edmonton qui vient d'en gagner 16 en ligne. Eux autres, peut-être qu'ils aimeraient ne jamais arrêter. Mais globalement, tu penses-tu que c'est positif de prendre quelques jours de congé pour l'équipe? Parce que cet horaire-là, il vient au prix d'un calendrier très, très surchargé dont certains joueurs se plaignent à d'autres moments.
Exact. Mais ça me fait rire quand les joueurs se plaignent de ça parce que c'est les joueurs qui l'ont demandé. C'est l'association des joueurs qui avait demandé cette fameuse congé-là. Mais moi, personnellement, j'adorais ça. Surtout au niveau des entraîneurs, quand tu es à l'aréna 7 jours par semaine, même la plupart des journées de congé, tu es à l'aréna, c'est 7 jours par semaine, on se couche très tard le soir et on se réveille très de bonne heure le lendemain matin. C'est une semaine là, qui était très, 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 très bienvenue. Et puis je pense que c'est une bonne chose. Oui, la saison est plus compressée, mais même pour les joueurs, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent premièrement se reposer, mais surtout soigner bien des bobos. Moi, là, j'adore cette formule-là depuis qu'elle est rentrée en vigueur.
Est-ce qu'il y a un joueur, un trio, une paire de défenseurs qui a fait du travail qui t'a particulièrement plu? J'ai envie de te souffler ou de t'amener dans la direction de Juraj Slafkovský. Ça inuit pas trop de pas jouer avec Nick Suzuki et Cole Caulfield, je trouve.
Ben, ça a été le meilleur trio, hein. Monahan, Armia et Slafkovský ont été, pour moi, et de loin même, le meilleur trio du Canadien contre les Pingouins. Ont été très impressionnants. Monahan qui a 5 lancés, Slafkovský 5 lancés, Armia 2. Donc, ils ont 12 lancés seulement ce trio-là. Slafkovský a marqué, Monahan un assist, mais ils ont été menaçants toute la soirée. Et on dirait que c'est trois joueurs avec un bon gabarit, surtout sur la route. Je pense que ça a fait une différence. J'ai adoré ce trio-là. Et faut parler absolument du fameux duo Matheson-Goulet qui ont été wow. Ils ont joué tout un match. Écoute, Matheson, 27 minutes 36. Goulet, 25 minutes 45. C'est ça, là. C'est du temps de glace. Ils ont joué la moitié du match hein, à eux seuls. Et puis, ils n'ont pas seulement joué la moitié du match à eux seuls. Ils ont été très bons. Même offensivement, ils ont été très bons. Ils ont 7 lancés au but à eux deux. Donc, ils ont été impressionnants. Les deux, la paire a été très impressionnante.
Je ne sais pas si David Savard joue avec des bobos. On sait qu'il a manqué quelques matchs, parce que c'est rare qu'il joue en bas de 20 minutes. Puis il était. C'est vrai que là, en le séparant d'avec Madison, puis en l'envoyant sur une autre paire, ben, tu peux moins tu peux réduire un petit peu son temps de glace, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que ça se peut qu'il joue avec un bobo des blocs tellement de lancés.
Ça se peut très bien. Je veux dire, il doit pas jouer souvent là avec zéro bobo, lui, la façon qu'il joue. Mais il était bon aussi, lui, ici, avec Jason Struble. Struble, qui de plus en plus fait sa marque, de plus en plus. Il est tout le temps sur une deuxième paire, donc un top 4. Et ça, là, c'est de match en match. Il prend sa place, puis il va être très dur à déloger de ça. Donc ça, c'est une décision qui peut peut-être rendre nerveux un gars comme Jack Eye. Et Jack Eye qu'on a sorti de l'alignement, une petite punition hein, pour avoir pris trois mauvaises punitions depuis son retour à Montréal. Et puis, ce joueur-là il a l'air d'un gars qui cherche à en faire un peu trop. Je parle de Jack Eye, un petit peu trop, en ayant la peur de perdre son poste à Montréal. Et c'est le même, je le vois. Donc, essaye d'en faire trop, prendre une mauvaise punition. À un moment donné, si on lui dit, mais là, faut pas que tu prennes une mauvaise punition, mais on va le dénaturer. Ça sera plus le vrai Jack Eye. Donc, le kid, il doit être mêlé un petit peu en ce moment.
Ouais, ça dépend parce que tu sais, des fois, c'est pas des punitions de robustesse qu'il a prises là, là. Tu sais, fait que j'espère qu'on va le dénaturer en ce sens. Arrête de pogner des punitions niaiseuses. Ça, j'ai pas de problème à ce qu'on le dénature si c'est là-dessus. Je veux dire, je pense pas qu'on va y arriver.
Non. Hein? Ouais, non. À un moment donné, ça peut devenir jusqu'à. Il sera pas le vrai Jack Eye jouer physique. Puis de temps en temps, quand un gars comme lui joue très physique, faut que tu acceptes comme équipe, comme coach, qui va prendre des punitions. C'est son style de jouer physique. Mais t'as raison, Mario.
Au bon moment.
Ouais, ah ouais, t'as l'intérêt. Là, les punitions qu'il a prises, c'est des punitions là que inacceptables.
Ouais, puis insignifiante, là, tu sais, qu'il n'y avait pas d'impact dans le jeu, puis on verra non, la suite. Ben, tu sais, les gens font grand cas. C'est un des gars dont chaque décision, ils sont, tu sais, c'est très, très médiatisé, le cas de Jack High, parce que veut, veut pas, c'est devenu un des favoris de la foule, mais je pense que le public doit prendre un pas de recul. Moi, je suis convaincu. Tu sais, il faut pas mettre en doute la volonté du Canadien d'en faire le meilleur joueur de hockey possible. C'est ça qu'ils veulent de Jack High. Puis je suis convaincu que lui, il comprend. C'est pas, là, tout le monde a toujours peur qu'on enlève quelque chose à quelqu'un. Mais je veux dire, il essaye d'en faire un joueur de hockey capable de jouer dans la Ligue. Sinon, s'il veut jouer à sa façon, il va peut-être jouer d'une autre Ligue, puis pas à la Ligue nationale, éventuellement, comme régulier. Il va peut-être jouer d'une équipe de dernier tiers. Il y a toujours une équipe qui va avoir besoin d'un gars qui fait plaisir à la foule. Tu sais, il peut faire 10 ans de même à se promener, à jouer 8, 10, 12 minutes par match dans des clubs qui feront jamais série. Mais s'il veut faire des séries puis participer à ce que le Canadien il faut qu'il devienne un joueur fiable.
Ah, bien, c'est certain. C'est la raison première. Écoute, il faut qu'il soit fiable. Et puis, écoute, mais tout ça pour dire, je le regardais jouer, il a l'air d'un gars qui est un petit peu... Là,
il est perdu un peu, là.
Qui a perdu, a peur de perdre son poste encore une fois. Je pense que ça l'a ébranlé beaucoup, le fait d'aller à Laval. Puis, je comprends pas pourquoi, parce que c'était pour son bien. Écoute, c'est pas un gars qui avait. Il a eu une job l'année passée à la surprise de tout le monde. Mais écoute, il faut que tu gardes ta job-là. Là, faut pas t'es, quand tu es rendu dans la Ligue nationale, tu peux pas dire OK, je suis rendu. Non, non, non. C'est à toi de la garder à tous les matchs.
Parce que, comme Martin Saint-Louis l'a dit en s'expliquant là-dessus, puis il avait raison. Il l'a dit des fois en parlant de défaites contre des bonnes équipes. Il dit la Ligue est compétitive. Il le dit souvent. Mais quand vient le temps d'expliquer qu'un gars pourrait dans l'alignement, ben, la Ligue est compétitive à l'interne aussi. Puis c'est exactement ça que Carbra a d'en face.
Ça ira pas en
descendant.
En descendant, là. T'as des jeunes qui poussent, t'as des maillots à un moment donné qui vont arriver à Montréal. T'as un
Ryan Backer, Wayne Hudson
qui va arriver à Montréal. T'as un Ryan Backer. T'as le Russe. Ça ira pas en mieux, là. Donc, Jack High, écoute, il va falloir qu'il mérite son poste puis qu'il mérite de rester. Comme Strubble fait depuis son retour.
Ouais. Autre chose qui a attiré ton attention dans ce match-là,
ben,
Stéphane?
Autre chose, écoute, là, on est avec ce fameux break-là, là, on va recommencer à jouer le 6 février. Et à partir du 6 février, Mario, là, je pense que l'attention va être sur le dernier mois qui reste avant la période de change. Et puis, ça va être là. Parce qu'on va être honnête, les séries, là, à 9 points, là.
Oublie
avec
ça.
6 clubs en avant, là, on peut passer à autre chose sur ce côté-là.
Oui.
On bien beau, il ne faut pas être rêveur, il faut
c'est
être réaliste.
Ouais.
Mais maintenant, il faut se pencher sur on fait quoi avec Monahan? On fait quoi? On est-tu capable de régler le fameux problème de trois gardiens de but? On fait quoi avec Carlin? Armia, il peut être une équipe d'un playoff, sans aucun doute.
Ben, c'est sûr.
Y a-tu une demande pour ça? Tanner Pearson, y a-tu quelqu'un qui prendrait ça pour de la profondeur? Donc, on va pouvoir se pencher sur ça et ça va être le plus gros sujet de discussion en revenant du fameux repos, de la pause. Ça va être le dernier mois qui nous mène au fameux 8 mars. Donc, un mois à parler de qui reste, qui part, puis c'est quoi qu'on peut avoir.
Écoute, je t'allais demander, je sais pas combien de fois depuis le début de l'année, parce que veux pas, on l'anticipe depuis longtemps, la fameuse date limite des transactions. Là, oublions les jeunes, là, mais dans les... vétérans, les 27 plus réguliers, là. Y en a-tu un que tu veux pas échanger, même s'ils sont tous quelque part échangeables?
Ben, je veux pas. J'aimerais garder Monahan, mais il faut qu'il réalise. Monahan, il va aller pour le gros, son dernier gros contrat de sa carrière. Donc, il veut-tu? S'il y a un intérêt au restant à Montréal, faut-tu régler ça avant le 8 mars? Parce qu'après ça, tu vas dire, tu peux pas te permettre d'aller jusqu'aux agents libres et puis de le perdre pour rien. Donc, si tu sais que tu pourras pas le signer ou il n'y a pas un intérêt, mais faut que tu l'échanges. Mais ça, lui, j'aurais aimé le garder. Un gars comme Savard, écoute, j'aimerais le garder. Il va y avoir une demande pour Savard. J'aimerais le garder lui aussi. Ça, c'est deux bons vétérans qui ont un bon impact sur cette équipe-là.
Mais t'es prêt à tous les laisser aller. T'es prêt à tous les laisser aller. Il n'y en a pas un que tu dis non, lui, je le garde.
J'aimerais les garder.
Non, mais mettons, t'es-tu capable de dire non, je le garde. Pas j'aimerais le garder, je le garde. Il n'y en a pas un qui correspond à ça?
Non, écoute, c'est pas des All-Stars quand même. Tu sais, Monahan, une bonne équipe, c'est quand même un troisième centre. Savard, c'est quand même dans une bonne équipe, sur une une troisième paire. Mais ils ont une bonne utilité aux Canadiens. Mais écoute, il faut que tu écoutes les offres. Tu sais, une offre, tu ne peux pas retenir, tu ne peux pas refuser. c'est bye-bye, c'est, y a aucun doute. Surtout un Savard, oui, je l'aime, mais on a beaucoup, on a parlé tantôt, on a beaucoup, beaucoup de jeunes qui s'en viennent okay. dans les prochaines années.
Mais Steph, la question, c'est, t'es-tu prêt à aller plus creux au classement l'an prochain? Parce que si t'es prêt à toutes les laisser aller, ça veut dire que l'an prochain, on va finir plus creux dans la cave encore une autre année, là.
Je suis pas prêt à toutes les laisser aller. Ça dépend de qu'est-ce qu'on reçoit en retour. Si t'as un offre, tu peux pas refuser. Écoute, faut que tu y ailles. Tu peux pas dire non. Moi, là, Monahan, il est intouchable. Voyons donc. T'as des stars qui ont été changés dans cette ligue-là. Là.
Oui, oui.
Monahan, intouchable, ben là, faut pas écrire.
Et oui, quand même, ils voudraient tous les échanger. Il y aura pas preneur pour tous ces gars-là, là, je peux pas croire.
Non, mais ça va être intéressant de savoir. Je veux dire, tu en as 4-5 qui peuvent avoir une certaine valeur pour certaines équipes. Et puis, mais ça va être très intéressant. C'est sûr qu'ils ne pourront pas toutes les échanger. Mais il faut j'ai très hâte de voir son plan de match dans le prochain mois qui s'en vient.
Mais tu peux être sûr. Moi aussi. Puis on se revoit demain.
Ça va être intéressant. Ça va nous en dire beaucoup sur le futur.
Oui, monsieur. D'ici à la fin de la saison, on va commencer à avoir un petit peu de réponse sur l'alignement que prend Kent Hughes avec la complicité de Jeff Gorton. Un gros merci, Steph. On se retrouve demain soir, bien sûr, pour notre prochaine édition des Amateurs. Bye-bye, mon cher.
Salut, Mario.
Bye-bye. Bon lundi soir. Et dans un instant, Bruno Eppel, on revient sur les deux matchs de foot qu'on a vus.
Les Amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
On connaît les équipes qui vont s'affronter au Super Bowl. Les Chiefs contre les 49ers. C'est exactement le Super Bowl que quelque part je souhaitais. Il y aura beaucoup de rouge. Bruno Eppel est avec nous. Salut Bruno.
Salut Mario. Oui, il va être du rouge en masse en tout cas.
Tu peux être sûr de ça. es-tu content? Es-tu content premièrement des deux équipes auxquelles nous aurons droit au Super Bowl?
Ben, je suis content dans la mesure où quand je regarde ce qui s'est passé en fin de semaine, je vois que c'est les deux équipes.
Les deux meilleurs.
Moi, les deux meilleurs, tu sais, puis c'est drôle, là, j'aurais pas pensé de dire ça des Chiefs. On va être honnête, là, avec la saison qu'ils avaient connue, mais dans les éliminatoires, quand ça comptait, ben, toutes les petites choses qui faisaient pas bien, mais soudainement, ils se sont mis à au contraire, les faire bien, ces petites choses-là, hein. On n'a pas vu de ballon échapper depuis les deux derniers matchs du côté des Chiefs, c'était ça qui faisait défaut. Qu'est-ce qui a fait gagner les Chiefs hier? Ben, c'est le duo Kelce, avec Mahomes. C'est la défense, dans le fond, toutes les choses qu'on s'attendait de voir être faisaient deux, selon nous, une bonne équipe. Ben là, on les a vus se mettre en marche. Fait que c'est bon signe pour dans deux semaines, on va te dire, les Chiefs, là. Et Patrick Mahomes, comme je t'ai dit, on s'est parlé dernièrement, là, puis je parlais avec Jérémy aussi. Prendre contre Patrick Mahomes, je commence à me brûler trop souvent. C'est pour ça que j'ai pris Patrick Mahomes contre les Ravens. Puis je pense que je vais prendre Patrick Mahomes contre les Niners aussi dans deux semaines. Je vais tout de suite te faire mes prédictions.
Il n'est jamais trop tard pour comprendre, Bruno. Tu as compris.
Non, mais tu sais, c'est tellement un joueur d'exception. C'est tellement un winner. Tu sais, puis c'est là que tu te rends compte que peu importe la qualité de l'équipe que tu peux avoir, à un certain moment donné, quand tu arrives dans les matchs importants, les matchs éliminatoires, ben c'est tes leaders qui vont faire la différence. Puis ces leaders-là, si c'est des winners, si c'est des gagnants, ben souvent, c'est ça qui va t'amener à bon port. Puis c'est exactement ce qu'on a vu du côté des Chiefs, de Patrick Mahomes, de Kelce et de sa bande, puis de je te vais dire d'Andy Reid aussi. Puis de l'autre côté, les Ravens, ben, on a vu qu'ils sont pas prêts à ça encore. Là. C'est leur vétéran, leur leader, ben tant qu'à moi, ils n'ont pas joué à la hauteur des attentes. Ils ont implosé, les Ravens. Ce sont auto-infligés. Des
vraiment.
C'est pour ça qu'ils ont perdu.
Hey, tu sais, les pénalités pour ce qu'on appelle taunting en anglais, là, pour un petit peu pour narguer.
Narguer l'adversaire.
Oui. Tu dois-tu te sentir. Premièrement, quand le gars il regarde la reprise de sa propre pénalité, il doit pas se trouver au top, disons, de ce qu'il a pu faire. Puis tu dois traîner ça longtemps, mais c'est tellement ridicule. Les gars entre eux autres, puis il y en a plusieurs joueurs qui agissent comme ça. Mais quand tu fais perdre ton club à cause de gestes semblables, c'est impardonnable, hein, Bruno?
T'as complètement. Des pénalités de 15 ans, les Ravens en ont pris 4. Puis là-dedans, là, c'est... Tu sais, à un moment donné, c'est un vétéran, c'est Van Noy qui est allé faire un casque à casque à la fin du jeu, quand le jeu était terminé sur Kelsey. Tu sais, 15 verges, ça a donné 15 verges. Après ça, t'as un joueur de ligne défensive qui donne un coup de poing en face à Patrick Mahomes sur un plaqué. Un autre 15 verges. Flowers, tu viens de le dire, pour avoir nargué. Puis je vais ajouter à lui, là. Flowers, lui, ça, quand tu parles d'un mauvais 5 minutes dans ta vie, là, il prend cette pénalité-là pour avoir nargué sur Sneed. 3 jeux plus tard, il vient pour rentrer dans la zone des
il
deux.
Il perd le ballon.
C'est qui fait perdre le ballon? C'est Sneed. C'est le même joueur qui avait nargué. Puis là, il s'en va sur le banc en beau maudit. Il lance son casque.
Il se coupe.
Puis il se coupe le dos avec son casque. Que de bain, là. Tu sais, le karma, là, lui, il a compris c'était quoi. Il a eu une maudite belle leçon. Puis j'ai l'impression que dans les prochains matchs de sa carrière en éliminatoire, ben, il va se garder une petite gêne avant de faire son smash.
Hey, vraiment, parce que lui, il a pas fini de s'en faire parler. J'y souhaite de vivre des bien belles affaires dans le futur pour juste faire oublier ces 5 minutes-là, parce que d'après moi, il va l'avoir dans la tête longtemps.
Tout l'hiver, parce que c'est un jeu tellement important dans le match, là, son échappée, ça aurait peut-être fait basculer le match du côté des Ravens. Je suis pas prêt à dire que les Ravens allaient gagner parce qu'il y a eu beaucoup d'autres choses. Tu sais, Lamar Jackson a été mauvais, là. On va se le dire. Il était confus. Il n'était pas capable de trouver ses premiers receveurs. Il comprenait pas ce que la défense lui présentait. Mais ce revirement-là a été, selon moi, le clou dans le cercueil, là.
Les gars qui courent avec le ballon, je sais pas si tu vas être d'accord, Bruno, mais un gars comme Lamar Jackson, j'ai l'impression que, des fois, il ne voit pas ses receveurs ou il ne veut pas y voir. Parce que, oui, il y a une bonne couverture en défensive, mais c'est comme si, dans le fond, son choix de jeu, c'est qu'il va courir la plupart du temps, puis à étirer le jeu, puis en tout cas, tu joues bien vite ouais, là-dessus. Là, mais...
D'accord, non, mais je suis d'accord avec toi dans la mesure où, souvent, tu sais, les gars qui font confiance à leurs jambes, comme Lamar Jackson le fait, c'est lui qui court le plus souvent avec le ballon, comme corps arrière avec Josh Allen.
Oui.
Puis souvent, ces gars-là...
Allen fait ça aussi, oui.
Oui, souvent, leur troisième lecture, c'est de courir. C'est Patrick Mahomes, il va aller à sa troisième, sa quatrième, sa cinquième lecture des fois. Là, il va le faire même en courant. Lamar Jackson, je te dirais, il avait pas l'air d'un gars qui était capable d'aller voir sa troisième et sa quatrième lecture la semaine, en fin de semaine. Et je pense qu'il s'est fait avoir par toutes les différentes blitz camouflées qu'on a... Tu sais, je rentrais pas dans les détails.
Ils sont bons défensivement, les Chiefs.
Spagnolo, son plan de match, là, je te le dis, Lamar Jackson, je pense qu'il l'a pas encore compris. À matin, en se levant, il n'avait pas encore compris le plan de match espagnol. Ça donnait un petit peu ce point de vue-là quand tu regardais à quel point il était toujours en train d'hésiter avant de faire sa passe. Là, il se tournait, il hésitait encore, puis là, il était pris pour courir. Puis soudainement, ben, quand il essayait de courir, il y avait des deux joueurs des Chiefs qui arrivaient, qui étaient là comme en espion, prêts au moment où il courait de venir le contenir. C'était de toute beauté de voir les Chiefs jouer défensivement. Ils ont donné 10 points à Lamar Jackson de son attaque. Il faut le faire, là. C'est pas bon.
Avais-tu l'impression que les carottes étaient cuites pour les 49ers? Étrangement, Bruno, je sais pas, puis je pensais beaucoup au fameux Super Bowl Patriots. Contre les Falcons, c'était pas le Super Bowl, mais oui, contre les Falcons d'Atlanta quand ils étaient revenus. Je sais pas si t'as eu des parallèles dans ta tête en pensant à ce match-là. Puis je me disais, bon, ils peuvent-tu revenir? Puis je savais pas trop, mais dans ma tête, c'était pas fini, mais j'ai été étonné quand même que ce soit presque facile pour les 49ers de revenir. Est-ce que les Lions les ont aidés? Ils ont beau dire Dan Campbell qui referait la même affaire en battant pas. Moi, c'est correct de maintenir le même discours, mais je pense que ça leur a coûté le match.
Tellement d'accord avec toi, puis je le disais pendant qu'il bottait pas. Sur au troisième quart, sur le quatrième et deux, quand il a refusé de reprendre une avance de 17 points, là, tu sais, à un moment donné, c'est correct, là, ça t'a amené là, là. T'es celui qui est allé le plus souvent sur les quatrièmes essais dans la Ligue cette année. Tu veux démontrer du caractère. Ça t'a amené là. Mais là, Dan Campbell, t'étais rendu. T'avais plus besoin de montrer du caractère. T'avais juste besoin de comprendre que le pire ennemi des 49ers, c'était le temps. puis que là, eux autres, ils venaient de faire un placement, puis tout avait la chance de refaire un placement, de les remettre à la même place où ils étaient à la mi-temps, mais il y avait 8 minutes d'éliminer dans le troisième quart. Soudainement, il leur restait juste un quart et demi pour défaire un déficit de 17 points, Mario. C'était une très mauvaise décision de ne pas y aller sur le quatrième et deux au troisième quart. Puis je te dirais, c'est encore une bien pire décision quand il a refusé d'égaler la marque.
Oui, ah, incroyable.
Ouais, écoute bien, tu refuses d'égaler la marque au quatrième quart avec genre 5 minutes à faire. Voyons donc,
c'est comme, il voyait plus clair, il était comme un peu prisonnier de son personnage, prisonnier ouais, de sa philosophie.
Complètement, oui, puis ça, c'est pas correct. Ça, là, c'était correct, ça t'a amené là, puis je le répète,
oui.
Là, il était rendu. Il était à un quart et demi du Super Bowl, puis ce que ça disait de faire, là, avec le fait que t'étais sur la route, que t'avais la chance de prendre une avance de 17 points avec 15 minutes plus 7 minutes, écoute, ça fait 21 minutes de jeu à faire, là, sur la route. La pire affaire que tu pouvais faire aux footballeuses, c'était de faire le placement, en reprendre une avance de 17 points, puis tuer la foule. Parce que les chances que tu laisses le quatrième essai, là, même si tu l'as sur le quatrième essai, là, mettons qu'il l'a, c'est pas garanti que ça va faire un tour.
Mais non.
Il était à la ligne de 30. Il aurait peut-être été obligé de faire le placement encore. Tout, selon moi, disait de faire le placement. Je suis d'accord, ces deux décisions-là, là, il y a eu plein d'autres choses. Les ballons échappés, un échappé de la recrue Gibbs. Je comprends toutes ces choses-là. Mais lui a tué le momentum de son équipe en refusant de faire ces deux placements-là,
ouais,
selon moi.
Clairement. J'ai très hâte de voir comment les 49ers vont pouvoir parler plus tard cette semaine. Puis la semaine prochaine, on a 2 semaines là, pour le crescendo qui va nous mener au Super Bowl. Mais j'ai envie de finir sur une note individuelle dans l'ultime sport d'équipe. Est-ce que le tenant du titre, là, toute catégorie confondue, là, jusqu'à preuve du contraire, puis je le vois pas à l'horizon, c'est marron.
Ah ben oui. Ben oui. Écoute, lui, ça va être son 4e Super Bowl en cinq ans.
Hey.
Dans les 5 dernières années. C'était un sixième finale de conférence consécutive.
Même en marquant moins de points, Bruno, t'es-tu d'accord? Même en marquant moins de points, oui. Il est tout aussi leader.
Ben oui, puis son match, là, on marquait seulement 17 points, mais lui, il a complété, il a complété 77% de ses passes là, hier, là. Puis il est allé courir des premiers jeux importants encore. Non, il est définitivement le leader incontesté, mais il y a un mot du bon dans Robin à côté de lui.
Ah oui, tu peux être sûr. Bruno, merci beaucoup. J'ai très, très hâte qu'on se reparle. Plus on va approcher du Super Bowl, mais ouais, beau week-end de football. Je te souhaite un bon lundi soir et à bientôt, mon ami.
Yes, sir, mon Mario.
Bye-bye.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport.
C'est un plaisir de renouer avec notre prochain invité, André Tourigny, entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona. J'ai pas eu l'occasion de lui parler depuis avant les fêtes. Nos horaires de match des Canadiens et des Coyotes ne s'arrimaient pas. Bien le bonsoir, André. Comment ça va?
Ça va bien, toi, Mario?
Ça va très, très bien. Qu'est-ce qu'un coach des Coyotes de l'Arizona, québécois d'origine, fait aussitôt que son club tombe en congé? Il reste en Arizona? C'est une pas pire place pour passer une semaine quand même?
On est bien chez nous. On a joué en Caroline samedi soir. J'ai pris l'avion dimanche matin là, de la Caroline pour m'en venir à Nicolette.
Ah.
T'es à Montréal hier soir du midi. Puis là, j'étais à Nicolette avec mon monde.
Ah, extraordinaire. On peut sortir un gars de Nicolette, mais on peut pas sortir Nicolette du gars, André, hein?
C'est ça, exactement ça. Ouais. Exactement ça.
Alors, mettons qu'une saison de hockey, là, c'est un vol avec une petite escale là, pour la pause du match des étoiles. Dans ton plan de vol, là, dirais, à un match au-dessus de 500, 23, 22 et 3, André, où est-ce que tu considères que ton club et toi, vous en êtes par rapport à ce que vous souhaitez, bien sûr? Là?
Ben écoute, on est à 4 points des séries. Écoute, on est pas loin. Bien content de voir la deuxième période des Sénateurs qui met 3-0 contre Nashville, met 3-0, là, Ottawa vient de mettre à la game, mais écoute, pour nous autres, on est en course au playoff, on est ce qu'on voulait être. Ceci étant dit, on avait un mois de janvier très, 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 très difficile au niveau des adversaires, au niveau de la cédule, puis c'était difficile pour nous autres. On a eu un mois difficile, puis on savait là, que c'était un mois crucial pour nous autres, là. pour rester dans la course. On était dans les playoffs quand que le mois a commencé. Là, on est en dehors, comme je disais, par 4 points. Fait que, je regarde pas vraiment sur la décortiquer plus que ça. C'est juste que, écoute, on est encore dans la course. On est dans la course. On a un bon break. Ça va nous aider. On a énormément de blessés. Là, on avait 3 défenseurs de blessés, etc. Fait que, avec le break, j'espère que ça va nous redonner le push qu'on a besoin pour la deuxième moitié.
Sentais-tu un petit peu de fatigue au sein de ta formation? Est-ce que tu l'apprécies toi-même comme entraîneur cette semaine de pause?
Oh, ouais. La Ligue nationale, c'est une ligue très, très intense. Là. C'est pas. Quand je parle d'intensité, je parle les matchs reviennent très rapidement. Tu vois, à ton pic d'émotion et d'intensité à toutes les 2 jours. Fait que c'est quand même c'est demandant au niveau de l'émotion, au niveau de mentalement. Fait que, écoute, je pense que le break arrive à un bon moment. Je pense que toutes les équipes vont dire la même chose. Je pense que pour nous autres, comme j'ai dit, là, dans les 4 derniers matchs, on a perdu 3 défenseurs. Là. Fait que on va récupérer au moins 2 là, au retour là, du break. Fait que ça, c'est sûr que les blessés dans la Ligue nationale, puis spécialement là, dans une équipe comme la nôtre, là, parce que la profondeur, c'est important. Le break va nous aider. Là. On va récupérer 2 défenseurs, comme je disais, puis Barrett Hayton va être très près d'un retour. Fait que puis Troy Stetcher devrait être peut-être une semaine après le break ou quelque chose de même. Fait que, quand même, ça va être une bonne chose pour nous autres là, qu'on aille du renfort.
Ouais, beaucoup d'éléments. Tu perds des joueurs, c'est difficile là, dans la ligue. À un moment donné, tu perds une coupe de morceaux, là. Ouf. Et à domicile, là, je sais pas si vous avez fait du Mollett Arena une forteresse, mais vous avez une fiche très positive. 15-9 à la maison, 8-13-3 sur la route. Il y a des clubs qui sont plus à l'aise sur la route qu'à domicile, on dirait. Tu vois, le Canadien a une fiche déficitaire ici à domicile. Bon, c'est des situations différentes, mais tu penses-tu qu'il y a de quoi qui vous dérange sur la route ou c'est juste une coïncidence que ça a coïncidé avec beaucoup de défaites dans les derniers matchs alors que tu étais privé d'éléments, là?
Ouais, c'est un peu des deux. Le mois de janvier, c'était un mois difficile pour nous autres. Je pense que c'est une question de timing des fois sur ton momentum, où ce que tu es rendu, puis comment ton équipe performe. Puis si ça donne que tu es chez vous, ben ça l'aide ta fiche. Puis à l'inverse, des fois, tu es dans une bonne séquence, puis là, 4 des 5 prochaines games, exemple, sont sur la route. Puis là, tu joues du bon hockey, tu arrives sur la route à un bon moment. Parce que nous autres, là, on vient de le vivre là, en allant là, à Floride, Tampa Bay et Caroline. On a pris nos 3 matchs. On a. C'est des bons adversaires. Là. C'est pas qu'on.
Ben oui.
C'est pas qu'on n'a pas joué. Là. C'est que en Caroline, on s'est fait carrer le reste à 36 secondes. Hein. C'était 1. Fait que tu sais, on a quand même compétitionné, mais quand tu comptes des bons clubs, des fois, il t'en manque juste un petit peu. Puis, on a manqué de gaz en deuxième moitié de match contre la Caroline.
Je suis curieux de savoir si tes dirigeants et toi, et toi surtout comme entraîneur, André, est-ce que vous... Ben, c'est sûrement beaucoup de nouvelles informations sur vos joueurs, de vivre dans une ambiance de jouer des matchs significatifs à quelques points des séries. Sens-tu une différence? Coaches-tu différemment? Vois-tu, y a-tu des joueurs qui réagissent différemment à ce type de... Plus du pression, entre guillemets, là, c'est disons, à cet objectif?
Je pense que nos joueurs ont toujours été très compétitifs depuis qu'on est arrivé. Là, on a toujours approché nos matchs avec un niveau de compétition élevé. Fait que je sens pas une grande différence, mais c'est sûr que la déception est plus amère. Là, quand t'es pas dans des playoffs, tu perds une game de 4-3 en fin de match, bon ben ok, c'est plate. T'es frustré, mais ça va pas au-delà de ça. Là, nous autres, c'est OK, on est frustré de la game, c'est plate. Mais là, en plus de ça, là, on n'a pas le point ou le 2 points là, qui aurait fait que peut-être on va faire la différence en fin de l'année. Là, fait que, et ça ajoute la frustration de la compétition est la même. Il n'y a pas de différence. C'est juste l'amertume de OK, l'impact que ces 2 points-là peut avoir sur la fin de saison peut être majeur. Fait que, ça ajoute un petit peu à l'amertume.
Je sais que t'en parleras ou t'en parles jamais, là, mais juste entre nous autres ici au Québec, là, le fait de diriger quand même une masse salariale qui est des dizaines de millions en bas de ce que les autres clubs mettent sur la glace, là, t'étais à quoi? À peu près 48 millions de masse salariale en joueurs actifs. Ça s'appelle quand même, t'es impliqué dans une course, tu tirais le maximum de ce que t'as. Tu as une certaine fierté par rapport à ça, André?
Ben, oui, c'est définitivement qu'on sait très bien qu'on n'a pas. on n'a pas le même masse salariale, mais en même temps, on sait très bien qu'on a des bons jeunes. Tu sais, quand tu as des bons gars sur des entry level contract, tu sais, Tampa Bay, ils n'ont pas cette chance-là. Là. Parce que les gars sont plus vieux. Fait que, les gars sont pas sur le contrat d'entrée. Fait que, on sait qu'on est avoir des Logan Cooley, puis des Gunter, puis des J.J. Mosier, puis des gars de même qui sont sur le entry level. C'est pas toutes les équipes qui ont cette chance-là. Fait que ça joue à notre faveur au niveau de la masse salariale. Mais par contre, définitivement, on n'est pas proche du plafond. Donc on s'occupe pas tellement du plafond. Là. Je peux pas te dire c'est quoi la distance avec le plafond. Je peux te dire que c'est quoi la distance avec le plancher, par exemple.
Oui, il y a plus de danger que tu te cognes un orteil que tu te cognes la tête, parce que...
Ouais.
Mais Logan Cooley, parmi tes jeunes joueurs, il a un bon temps de glace en moyenne quand même, tu sais, je regarde ça. Ouais. Bon, de temps en temps, tu le réduis un petit peu, mais tu sais, généralement, c'est rare qu'il est en bas de 15. En termes de production, il y a eu un petit creux, il s'est remis à produire dernièrement. Qu'est-ce que tu découvres en lui plus la saison avance?
Ben, écoute, je pense qu'il est là, il y a eu un bon début de saison, ensuite de ça, il y a eu un creux, puis là, il joue du gros hockey.
Oui.
Dans le mois de janvier, c'en est un là, qui a vraiment eu un bon mois, juste la façon qu'il a joué. Sa game est encore plus complète, puis il est très compétitif. Depuis que Dylan Gunter est revenu avec nous autres, puis qu'ils sont jumelés ensemble, là, ils se voient très bien, ils jouent du bon hockey les deux ensemble.
Hey André, avec le retour de Jacques Martin derrière un banc de la Ligue nationale, de Patrick Roy dernièrement, on se retrouve tout à coup avec 6 entraîneurs francophones. Ma foi, le syndicat des coachs se dit, vous allez faire une réunion en français, ce sera pas long.
Ça va être la fun.
Non, mais moi, je suis fier, je regarde ça content. D'ici, là. C'est quand même spécial. Tu trouves pas, André, qu'on reconnaisse à... Tu sais, dans une ligue, franchement, probablement très ouverte, pour accueillir six gars qui parlent... Bon, Jim, sa langue maternelle, c'est l'anglophone quand même, il s'exprime très bien en français, mais 5 gars dont la langue maternelle, c'est le français. Il faut vraiment qu'on vous reconnaisse des qualités exceptionnelles de leader d'homme pour vous intégrer dans une ligue où la langue de travail est l'anglais, et puis la plupart des gens le parlent sans accent. Il faut être bon, hein, parce que c'est pas donné. C'est difficile d'y revenir, parlant à ton ami Patrick, hein?
Mais tu sais, moi j'ai toujours pensé que on se mettait plus de barrières que le monde nous mettait des barrières. Tu sais, j'ai souvent dit ça, exemple, tous les coachs de la Q on va au draft national, on est tout le temps tout ensemble, toute la gang. Fait que t'arrives dans un bar, là, on est tous ensemble puis on parle en français. Pendant ce temps-là, toutes les autres legs, ils se mêlent puis ils se parlent entre eux autres, puis nous autres, on se sépare comme on s'en va toute la gang. On est content de se voir. Tu sais, moi, quand j'ai le draft, j'étais content de parler à Yannick Jean. Serge Beausoleil, puis tous ces gars-là, là, tu sais, Ben Gros, etc. Tous ces gars-là, là, on joue toute la gang ensemble. Pendant ce temps-là, les gars des autres ligues, eux autres, ils se mêlent tous ensemble. Puis après ça, on dit, tu sais, on se fait mettre à part. C'est pas vrai, c'est nous autres qui se met à part. Quand je suis devenu dans le programme de Hockey Canada, là, automatiquement, j'avais pas le choix d'aller parler avec les autres avec qui je coachais. Fait que là, j'ai commencé à me mêler, puis. Je me suis aperçu que les autres, ils ne me voyaient pas différemment. Le gars de l'Ouest, ils ne me voyaient pas différemment que le gars de l'Ontario, que le gars qui coachait aux États-Unis quelque part ou quoi que ce soit. Puis je me suis aperçu que plus je me mêlais à eux autres, plus je faisais partie de... J'étais un coach de la gang. Tandis que les autres qui s'isolent, ben c'est qui s'isole les deux? Là? À un moment donné, si tu veux être reconnu, puis je pense que si tu parles de Jim Montgomery, exemple, c'en est un, c'est un Montréalais, c'est un gars de Montréal, puis il a joué au hockey, puis après ça, il est aux États-Unis, il est à l'Université de Denver. Il n'y a personne qui regarde Jim Montgomery en disant « Ah, c'est un gars de Montréal ». Quand il regarde Jim Montgomery, c'est Jim Montgomery. Quand il regarde André Tourigny, bien, c'est André Tourigny. Parce que le Vincent, même affaire, il s'est mêlé, puis aujourd'hui, bien, c'est un gars de la Ligue nationale. Il est connu, il y a plein de monde qui me parle de Pascal, qui ont côtoyé Pascal, qui ont coaché avec Pascal, qui ont parlé à Pascal. Ça n'a rien à voir avec le fait de où est-ce qu'il vient. Puis je pourrais faire la même allusion, si, exemple, je disais des coachs américains ou quoi que ce soit. Je pense que c'est on a toute une responsabilité de se mêler. Puis c'est sûr que, comme je dis, moi, avec Hockey Canada, ça m'a ouvert la porte. Parce que
ben oui.
Avant ça, j'en connaissais moins. J'en connaissais pas des gars des autres ligues. Puis quand la porte est ouverte, puis j'ai rentré dans la porte, je suis tombé dans la gang, puis je connais beaucoup de gars que si j'avais pas, si je m'étais pas mêlé aux autres, je serais encore dans mon coin.
Ben, c'est sûr que le programme d'Hockey Canada t'a aidé à cheminer par rapport à ça. Puis j'avais envie de penser aussi, veux pas, ben, il a fallu qu'on t'offre les emplois pis t'es acceptes. Mais tu sais, en choisissant d'accepter des emplois à Halifax et à Ottawa, je sais pas si consciemment tu cheminais dans ce que tu me décris comme, dans ce que tu viens de me dire, là, tu sais, je sais pas si c'était, t'étais-tu conscient que t'élargissais ton réseau en allant à Halifax et à Ottawa dans des villes majoritairement anglophones avec peut-être des réseaux différents, même si à Halifax t'étais dans Q?
C'est ça, mais c'était pas le but d'accepter ces emplois-là, mais c'était sûr que j'étais conscient que ça aurait cet impact-là. C'est quand j'ai accepté le job avec Halifax, parce qu'Halifax est une des meilleures organisations, puis Bobby Smith, c'est un gars qui avec qui, que, quand j'étais justement GM avec Rouen, on se parlait souvent, puis on voyait les choses de la même façon. Fait que j'avais une bonne relation avec Bobby. Fait que quand je suis devenu disponible, le lendemain, dans la même semaine, il m'a appelé, il m'a offert le job. Fait que ça s'est fait rapidement. Halifax, c'est une place que je voulais, que j'aimais. C'est une bonne organisation. Puis j'avais une bonne relation avec Bobby. Fait que ça s'est fait de même, mais je savais très bien qu'en allant à Halifax, j'aurais une visibilité, puis que je travaillerais en anglais, ben, etc. Puis ensuite de ça, quand j'ai eu l'opportunité d'aller avec les 67, de me rapprocher de ma famille, ben là, c'était la même affaire. Je me souviens que quand j'ai eu le job avec les 67, il y a un ami à moi qui s'appelle Benoît Groux qui m'a dit, là, tu vas passer direct de l'OHL à la Ligue nationale en chef. Ben, j'ai dit, ben voyons donc. Et puis lui, il avait dit, tu vas avoir de l'exposure, puis... C'est ça qui va arriver. Puis il y a deux autres dépisteurs de l'international que je connais bien, dont Al Murray, qui m'ont dit ça va te propulser comme de fait. Trois ans plus tard, j'ai une job d'entraîneur-chef d'international.
Exactement.
C'est sûr que ça a donné une visibilité.
Il n'y a aucun doute. Là, tu veux venir le retour de Patrick derrière un banc de la Ligue nationale, mais surtout derrière le banc des Islanders. Comment tu as réagi?
Je suis pas surpris avec les Islanders parce que je sais que Lou Lamoriello, il a du respect pour Pat. Je sais très, très bien que Pat et Jacques Lemaire, c'est deux gars qui ont énormément de respect. Pat, c'est un gars qui posait beaucoup de questions à Jacques Lemaire. Jacques Lemaire est une ressource pour lui. C'est un gars qui est... Donc, je sais que Jacques Lemaire a toujours été le conseiller de Lou. Fait que je voyais... Tu sais, c'était pas dur de...
Ça t'est déjà passé par la tête que ça pouvait arriver avant que ça arrive, autrement dit, ouais, tu y avais déjà pensé?
Exactement ça. Tu sais, je suis pas surpris par tout. Je pense que Lou Lamoriello, il est pas inquiète de savoir si Pat va essayer de faire de l'ingérence ou quoi que ce soit. Est-ce que certains ont pu penser d'un fois... J'avais entendu des rumeurs, là. Je parle pas à travers les gars d'hockey. Il y en a qui disaient que Pat, parce qu'il était habitué de contrôler à Québec, d'être GM puis d'être coach, puis ci, puis ça. Puis là, il y a du monde, là, je parle des amateurs qui disaient, ah, ben, Pat, peut-être qu'il va en prendre trop large. C'est-à-dire que Lou Lamoriello, il aura pas peur de ça, là. Il était sans que ça soit avec Mike Babcock ou avec André Tourigny ou avec Patrick Garoua. Lou, il y a personne qui va en prendre trop large avec lui. Fait que, je savais que Lou, ça serait pas un problème. Puis je sais que Pat, pour l'avoir vu, c'est pas un gars qui va essayer de faire de l'ingérence avec Lou Lamoriello. C'est pas son genre pantoute, là. Pat, c'est un gars qui va vouloir travailler avec Lou, qui va être bien content. Puis je suis convaincu qu'il va faire une bonne job. Puis je suis bien content pour lui.
Ben ouais, on est tous contents pour des gars de chez nous, puis contents pour Patrick. Puis de toute façon, je pense, puis c'est comme ça, on dirait qu'il essaie de se positionner en partant. Puis peut-être sa compréhension est différente. Je veux pas quand il est arrivé au Colorado, puis il a bien fait, il a gagné Jack Adams dans un au Colorado. Mais clairement, là, par rapport aux questions justement de possible ingérence, il a voulu se positionner comme, puis même dans les images, je suis bien comme un coach au service de ses joueurs. Puis je pense que la tendance, tout sport confondu, André, puis corrige-moi si je m'en vais pas dans la bonne direction, mais tu sais, je pense que le rôle d'un coach est rendu un trop gros rôle pour que tu sois occupé à faire bien d'autres affaires. Puis, tu sais, c'est un rôle où peu importe le degré ou de la manière que tu exprimes ton autorité, où tu es vraiment au service de ton équipe, hein? Ou de tes joueurs.
Ben, c'est parce que nous autres, on est, excuse l'expression en anglais, mais on est dans les trenches avec nos joueurs. On est dans les tranchées avec nos joueurs, là. Les bullets, ils fly chaque bord de notre tête, là, puis ça revole, puis ça pète. Les grenades, ils tombent pas loin de nous autres, là. On n'est pas en haut, là, perché dans la tour, en haut, puis on regarde ça en trois dimensions, là. Nous autres, on est dans les trenches, puis c'est là que ça se passe. Fait que c'est sûr que moi, pour moi, mes joueurs, c'est ça là une c'est je dirais pas c'est mes bébés là parce que là faut pas exagérer mais c'est tu sais je suis dans
t'en prends soin dessus,
puis je, c'est ça tu sais j'ai voué suer puis j'ai sang puis j'ai voué saigner puis j'ai voué émotionnellement physiquement ce qu'ils font fait que pour moi c'est je suis attaché d'une façon émotive beaucoup plus grande avec ces gars là que quand t'es dans un rôle de management. Fait, on est dans un espace différent. Je pense que pour moi, je serais pas en position de toujours prendre les bonnes décisions au niveau émotionnellement, au niveau de mes joueurs, parce qu'il y a des joueurs que, exemple, jouer ce qui passe au travers, puis ça pourrait jouer dans mon jugement quand ça serait peut-être du contrat ou quoi que ce soit. Fait. Je pense que chacun son métier, les troupeaux seront bien gardés.
C'est tellement bien dit. D'un fils de propriétaire de terre et de ferme, en plus de ça, ça s'applique 10 sur 10. Une petite dernière en terminant, André. Donc, pas d'affrontement contre les Islanders d'ici la fin de l'année, mais es-tu content de savoir? Ben, tu le sais, mais vous n'avez pas joué une contre les Oilers. Puis il vous en reste 3, dont votre dernier match de l'année. Puis là, ben, eux autres, ils n'arrêtent plus de gagner. C'est quand même impressionnant. Norblat, 26-6 s'affiche et 16 victoires de suite. C'est fou comment ça peut partir, tu sais, tout un, tout l'autre. Mais là, je parlais avec Vincent Desharnais, il dit, on embarque sur la glace, puis il dit, on sait qu'on va gagner. C'est spécial, hein?
Ouais. Exact. C'est ça qui est le mental. C'est ça qui est le... Quand, au début de l'année, tu regardes les Kings, là, au début de l'année, ils embarquaient sur la glace, ils étaient 27. Là, ils embarquent sur la glace, puis tu vois qu'ils ont un doute. Tu vois qu'ils sont pas sûrs d'eux autres. Donc, c'est ça le mental.
Exact. André, un gros merci. Bien content de t'avoir reparlé ce soir. Et puis, bonne semaine de congé à Nicolet. Nicolette ou Nicolet? Nicolette ou Nicolet?
Nicolette.
C'est comme
Nicolette.
Magog ou Magog? Ah. Magog.
C'est ça, exact.
Exactement.
Exactement.
Salut André. Bye bye.
Salut Mario.
À bientôt. Merci beaucoup.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.